Mais au lieu de parler de sortes précises, puis de parler de coups de cœur, puis de se faire croire qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on est bon, puis des accords, on peut tout faire ça. Il y a une affaire qu'on a oubliée, c'est faire le jeu de base. Le jeu de base, c'est de dire, on aime bien prendre une coupe de vin, mais savez-vous d'où c'est que ça devient? Et là, je sais, j'entends des milliers de personnes qui nous écoutent présentement dire, « Voyons, Fred, maudit tonton, c'est fait à base de raisin. » On se calme les nerfs, je sais que c'est à base de raisin. Mais ça vient de quel pays? C'est quelle gang qui ont créé ça? C'était-tu un accident? C'était-tu voulu? Y avait-tu tel processus de rendre ça salubre ou pas? Ça, c'est un petit bout qu'on a peut-être oublié. Et ça serait peut-être bon de savoir d'où c'est que ça devient pour l'apprécier encore plus par après. Martin Rémillard est sommelier, un gars que j'ai connu dans l'Outaouais il y a de ça bien longtemps. C'est un gars qui est extrêmement sympathique, qui a travaillé avec des restaurants de grande renommée, un gars qui a voyagé partout dans le monde, qui a tout un nez à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins. Et à chaque fois que je poste une image d'un vin à 10$, il veut littéralement m'assassiner. Martin Rémillard, Martin, salut!
Salut Fred, comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, tu sais, puis on va le faire un peu plus tard dans la semaine, on va parler de nouveautés, on va parler de ci, on va parler de ça, mais Batèche, je sais pas si t'es d'accord, mais à un moment donné, on est tombé un peu dans l'analyse puis la suranalyse, alors que ça serait pas mauvais de se souvenir, le vin, ça vient de où?
Ah ben, c'est une super belle question, puis quand tu m'as contacté cette semaine pour parler de ça, j'ai fait comme fun, parce que ça apporte une approche un peu différente de quoi on parle au quotidien, acheter ci, acheter ça, pas acheter ci, pas acheter ça.
Bon, évidemment, on se comprend, le vin, ça vient du raisin. Mais encore, est-ce que c'est A, quelque chose qui a été planifié dans sa découverte, ou B, ça a été découvert par accident?
Définitivement, la réponse est B. On mange du raisin depuis très, très, très longtemps, probablement aux alentours de 25 000 ans. On a commencé la cueillette, on a commencé la culture de la vigne, mais c'est sûr que c'est d'une façon accidentelle. Probablement qu'on avait des raisins qu'on avait cueillis pour les manger, dans le but de les manger. Et après quelques jours, le goût commence à changer. Hein. Je ne sais pas si vous avez juste besoin d'avoir des fruits sur la table par une belle journée chaude d'été comme ça. Si vous avez un ou deux fruits qui sont un peu endommagés, vous allez goûter ce fruit-là et il va goûter différemment. Hein. Le goût un petit peu, un petit peu vinaigré ou un petit peu différent. C'est le début de la fermentation, c'est le début de la production d'alcool.
Mais tu sais, Martin, nos référents, en tant que bon petit Québécois qui a été école, on pense tout le temps à l'époque de Jésus. « Ah, Jésus a changé, entre parenthèses, l'eau en vin. On parle des noces de Cana. » Nous, on a l'impression que le vin a été créé du temps de Jésus. En réalité, ça date de ben avant 2000 ans, je suppose.
Oui, probablement. Les recherches disent à peu près 2300 ans avant Jésus-Christ.
Oh.
Donc, on parle de quasiment 4500 ans par rapport à aujourd'hui. Là. Puis, les premières découvertes où on est certain qu'il y a eu du vin, c'est en Perse, donc ce qui est maintenant l'Iran. C'est ça, à ce moment-ci, là, on a trouvé des traces de vin dans les cruches. Et ça, on est capable de le prouver.
Parce que l'histoire nous a démontré que des fois, certaines choses sont découvertes et sont oubliées, ou à un moment donné, de par la culture religieuse, ou d'une manière ou d'une autre, ou le culte, des fois, il y a une époque où l'alcool s'est interdit. D'autres cas, par les chamans, on utilisait l'alcool pour entrer en communion. Est-ce que le vin, du moment qui a été découvert, a toujours été dans la culture des gens, ou à un moment donné, c'était moins populaire, c'est revenu populaire, moins populaire, un genre de haut et bas au niveau de la consommation de vin?
Ben, c'est exactement ce que tu dis. Donc, le premier peuple pour lequel on peut donner une grande responsabilité pour la promotion de la culture du vin, ben, c'est évidemment les Romains, l'Empire romain qui s'est étendu un peu partout autour du bassin méditerranéen, autour de la Méditerranée, que ce soit grosso modo partout en Europe. Eux ont été utilisés ça comme, bon, premièrement, un petit peu au niveau des rites du culte, on connaît tous un peu Bacchus.
Oui.
Et aussi, toute la culture. Faut savoir que les vins de cette époque-là, ça ressemble à rien à ce qu'on boit aujourd'hui. Là.
Premièrement,
c'était des vins avec une basse teneur en alcool. On comprenait pas beaucoup la chimie à ce moment-là, donc on avait la difficulté un peu à contrôler le niveau d'alcool. Puis c'était des vins de mauvaise qualité, donc pour être capable de boire des vins de mauvaise qualité, qu'est-ce qu'on y fait? On y ajoute des saveurs. Donc on utilisait des épices, de la cannelle, des trucs comme ça, du miel. Pour les aromatiser et les rendre un petit peu plus consommables.
OK, donc c'est parti à, tu sais, un pétru et des affaires de même. On n'a pas commencé avec du grand. On aurait tendance à dire, ah oui, il y a des grands vins qui datent de 400-500 ans, mais il y a bien, bien, bien avant ça.
Non, c'est ça, exactement. Les grands vins, oui, on parle d'à peu près, je dirais, 15e siècle à peu près, là, donc aux alentours de 1600 puis 1800, là, c'est là qu'on commence à vraiment connaître un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Et déterminer qu'il y a des endroits qui sont plus propices à produire des meilleurs vins.
Et justement, qu'est-ce qui fait, excuse-moi l'anglicisme, qu'on a clutché en matière de dire on faisait des affaires comme on pouvait un peu à bonne franquette, puis à un moment donné, on a décidé qu'on était capable de faire du bon vin. Est-ce que c'est l'aristocratie française? C'est qui a mis ça vraiment dans des goûts de luxe?
Ben, c'est drôle, hein, parce que c'est pas nécessairement les Français qui buvaient les grands vins. Quand tu parlais de culte tantôt, les Français, bon, d'origine catholique, comme nous. Chez les catholiques, le vin était plutôt réservé pour justement la messe. C'était les protestants qui buvaient les grands vins, qui avaient l'argent, parce que chez les protestants, faire de l'argent, c'était pas mal. Tandis que chez les catholiques, c'était mal vu et une grosse partie de l'argent qui était fait était retourné à l'Église. Donc, c'était les grands vins, ils sortaient tous de France, c'était produit en France, mais ils s'en allaient en Angleterre, s'en allaient en Allemagne, s'en allaient en Hollande. Propriétaire des empires.
Si on se rapproche un peu plus de l'ère moderne, on sait que dans certains pays, États-Unis, d'autres endroits, on a eu ce qu'on appelle des périodes de prohibition. Est-ce que tu sais si le vin a été frappé par des périodes de prohibition à travers le temps?
Ben, la plus grande prohibition, c'est la levée des musulmans aux alentours du 6-7e siècle, donc toute l'époque post-Mahomet, parce que dans la religion islamique, le vin est interdit. Donc, tout ça, quand cet empire-là a pris contrôle des pourtours de la Méditerranée, ben, tu vois qu'en Espagne, il y a eu un arrêt de production. Au Portugal, la même chose. Toute la région originaire, donc, tout ce qu'on appelle la Mésopotamie, donc l'Iran, l'Irak, le Liban et tout ça, ben, la production de vin est maintenant inexistante ou très, très faible.
Ah, OK.
Évidemment, il y a eu la grande prohibition aux États-Unis puis au Canada qui a arrêté la production de vin aux États-Unis pendant une quinzaine d'années.
C'est vrai, c'est vrai. Et là, maintenant, ben, avec le temps, les Américains, dans leur genre, se sont rattrapés puis sont devenus quand même des bons producteurs de vin. Des vins souvent très typés, très à eux, mais c'est correct comme ça. Puis à un moment donné, ils ont repris le temps perdu. Le Canada, ouais. le Canada qui, lui aussi, a réussi à se développer une certaine expertise. On pense évidemment dans le coin de Niagara Falls et tout ça, mais il y a d'autres endroits au Canada et même au Québec qui commencent à produire de mieux en mieux ou du vin de meilleure qualité. Je te pose.
Même par chez vous, il y a quelques petits trucs là, qui commencent à être intéressants, dans les climats difficiles comme le Saguenay.
Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a même, on pense souvent aux mêmes gangs, mais il y en a 3-4 dans la région qui produisent du vin. Et j'ai goûté à du très bon blanc du Saguenay il n'y a pas si longtemps, puis j'ai été agréablement surpris. Cela dit, au Québec, à quel moment tu penses, au niveau sociétal, qu'on commence à dire en gang, au niveau social, on prend du vin? Est-ce que tu peux à peu près définir à quel moment qu'on a dit, outre la messe, au Québec, des réunions de famille, on prend du vin? Je sais que c'était pas toujours du grand vin, mais à quel moment on a commencé à clutcher?
Ben, un élément au Québec qui est important, c'est ce que j'appelle, moi, la libéralisation du marché. Donc, l'arrivée des vins de mauvaise qualité quand même, mais en épicerie et dans les dépanneurs à la fin des années 70. À ce moment-là, le vin devient accessible à tous. Tu peux décider à 5 minutes d'avis d'avoir du vin à la table. Au niveau qualitatif, je te dirais que le déclic s'est fait un peu au début des années 90. Okay, donc, ma génération, là, ceux qui sont autour autour de 50 ans, là, c'est nous vraiment la première génération où ce que le vin de qualité et intéressant commence à exploser. Et je te dirais, depuis une dizaine d'années, ben là, c'est partout, c'est tout le monde. Tu regardes juste l'explosion du nombre de chroniqueurs vins au Québec depuis, moi, ça fait une quinzaine d'années, je fais ça, là. Quand j'ai commencé au début, il y avait très peu de gens. Maintenant, il y en a partout, là. Tout le monde devient intéressé au vin. Puis vous voyez, vous avez un super festival de Saguenay, qui est un des événements vinicoles au Québec. Selon moi, le deuxième en importance, puis le premier en fait d'assistance, là. J'ai pas vérifié les chiffres, mais on n'est pas loin de ça, là. On est loin de Montréal, là, géographiquement parlant. Donc, attirer autant de monde que ça en région pour un événement vinicole, c'est extraordinaire.
On a parlé d'où vient le vin, Martin, en terminant. Es-tu capable de me dire où s'en va le vin?
Ça, c'est une belle question. Dans différentes directions. OK, donc on commence. Puis ceux qui vont assister au festival ce week-end, vous allez voir des vins oranges. OK, donc des vins blancs avec une macération sur la pellicule, donc qui donne de la couleur au vin. Les vins nature, donc avec le moins d'intervention chimique de la part des producteurs. Puis d'un autre côté, des vins commerciaux. Donc, on est après vivre d'une certaine révolution de dire, d'être capable de prédire où est-ce que ça va aller. C'est pas dans... Je serais pas capable, mais je sais qu'on va voir un peu une diversification de l'offre, un petit peu comme dans le domaine de la bière en ce moment.
OK.
Avec des microbrasseries, puis des bières de spécialité avec des levures de Brett, par exemple, ou des élevages schubériques. Donc, le vin est après se développer différentes tentacules pour différents types de clientèles.
Ben, c'est ça. La bière a été shakée par des gens qui ont innové, qui ont décidé d'essayer des affaires, qui ont été carrément perçus comme étant des genres d'alchimistes dangereux à un moment donné, mais qui ont réussi à élargir les goûts de la bière. Probablement qu'il y a une nouvelle génération de producteurs à un moment donné qui vont arriver avec des idées qui vont vouloir sortir du cadre.
On est en plein dedans, Fred. Mais sauf qu'en ce moment, c'est un petit peu dans des milieux restreints. Là. Il faut vraiment être passionné puis très intéressé de la chose. Mais je te dirais, déjà, par exemple, dans la catégorie des vins oranges à la SAQ cette année, ben il y avait quinzaine de produits là, qui sont offerts au grand public dans l'ensemble de la province. Des vins nature, il y a comme une trentaine de produits. Donc, il y a une démocratisation de ça aussi. C'est sûr que c'est des goûts qui sont différents, mais pour les gens qui sont curieux, qui ont le goût de goûter quelque chose de différent, je pense que c'est des belles alternatives.
OK, des vins oranges. Moi, je retiens ça. Où c'est qu'on s'en va, le vin orange, en fin de semaine, m'a essayé de goûter à ça. Martin Rémillard, as-tu un site web? Qu'est-ce que tu... Comment qu'on le trouve?
Bon, ben, on me trouve sur Internet au www.martinsommelier.com.
Oui.
Puis je fais des événements, je fais des trucs un peu partout dans la province.
C'est super. Un gros merci, mon ami. Puis j'espère, à un moment donné, que tu vas amener la petite famille au Saguenay pendant cette fin de semaine-là, puis tu vas venir t'asseoir en studio avec nous autres. T'es un good guy, t'es un bon gars, t'es le fun à jaser, puis on aimerait ça te revoir face à face.
Ben, on a une date pour l'année prochaine.
Yes, salut Martin.
Salut Fred.
11h55, Martin Rémillard, parce qu'on va toujours pouvoir parler de « Ah, ce vin-là, il est bon, celui-là, il s'accorde bien, ça, c'est parfait. » Mais il fallait bien savoir d'où c'est que ça devient, et disons que la route a été quand même très, très, très longue. On parle business de manière positive à l'instant.
Kick 95.7. Voici le 11h45 économique, en collaboration avec Informaffaires, la référence incontournable en information et en animation du milieu économique.